c'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La plus grande ferme de France ouvre ses portes demain à la porte de Versailles à Paris. Une ambiance champêtre et bucolique qui ne doit pas faire oublier le profond malaise du monde rural. Les suites du rapport du Sénat dans l'affaire Benalla, le Premier ministre sonne la charge contre les sénateurs. Le président du Sénat, Gérard Larcher, veut calmer le jeu, nous expliquera Karine Bécard. Le grand débat national se termine bientôt. Les contributions recueillies sur les cahiers de doléances vont être maintenant numérisées. Le grand débat, vous en parlez avec vos invités, Nicolas, à 8h20, en direct de Saint-Étienne.
En direct de Saint-Étienne, oui Laurence, pour la journée spéciale que vous propose France Inter. On va débattre du débat dans le grand entretien de la matinale avec le maire de Châtillon-d'Azergues, Bernard Marconnet, et avec Thierry Mandon, le directeur de la Cité du Design de Saint-Étienne. Également au micro d'Inter, Véronique Narboux, la rédactrice en chef de France Bleu Saint-Étienne-Loire, et Yann Gallic, reporter à la rédac d'Inter. Amis auditeurs, appelez-nous dès maintenant pour intervenir et débattre. 01 45 24 7000.
En Syrie, l'identification du djihadiste français Fabien Klein est toujours en cours. Il aurait été tué par un drone américain. Une exécution ciblée, fruit de la coopération entre la France et les États-Unis contre le groupe État islamique. Et puis la cérémonie des Césars, c'est ce soir. Quels sont les favoris? Nous verrons cela avec Corinne Pellissier.
France Inter.
Veaux, vaches, cochons, couvées, 4000 animaux, une vedette, imminence, une bleue du Nord de 710 kilos sélectionnée comme tête d'affiche du 56e salon de l'agriculture. Un salon synonyme de plaisantes retrouvailles entre 650 000 visiteurs citadins et le monde rural, la plus grande ferme de France hors sol, très hors sol, car le quotidien des agriculteurs est aujourd'hui complexe et pesant, tiraillé entre contraintes financières, technologiques, commerciales, environnementales. L'agriculture et les Français, c'est un peu « je t'aime moi non plus ». Selon un sondage de nos confrères de France Info, 85% des Français sont attachés à ce monde agricole, mais dans le même temps, les consommateurs sont devenus très exigeants et l'accusent de polluer, de maltraiter les animaux. Le phénomène, Manuel Ruffez, est désormais appelé l'agribashing.
Il n'hésite pas à vous parler de dénigrement systématique. Certains racontent même les injures. D'autres encore ont peur d'être victimes d'actes de vandalisme. Bref, ça suffit, disent-ils. Ce salon est placé sous le thème « L'agriculture des hommes, des femmes, des talents ». Jean-Luc Poulain, son président.
Dans l'agribashing ambiant, dans la fake news permanente, on voulait montrer que, au cœur de l'agriculture, au cœur du système productif agricole, c'était bien des hommes et des femmes qui pilotaient, non des robots, et des hommes et des femmes qui pensent, qui réfléchissent, qui tiennent compte de ce qu'on leur demande. Et voilà pourquoi on voulait remettre au cœur du salon ce thème.
Il faut réconcilier l'agriculture et le citoyen dit lui-même, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume.
Dans ce pays, on a l'alimentation la plus saine, la plus sûre, la plus transparente de quasiment tous les pays européens et beaucoup nous envient. Est-ce que c'est assez? Sûrement pas. Mais enfin, il faut prendre conscience aussi que les agriculteurs font beaucoup d'efforts sur la transition agroécologique, beaucoup d'efforts sur la transition sanitaire. Il faut sûrement aller plus loin. Mais je dis, arrêtons de montrer du doigt l'agriculture française.
Il faut avancer, conclut encore le ministre. L'agribashing, ça ne mène à rien, dit-il, si ce n'est à opposer et à diviser.
Inauguration du salon tôt demain matin par le chef de l'État, quelques mois des européennes. Son discours sur la politique agricole commune est très attendu. Du salon de l'agriculture à nos assiettes, où quand Mickey s'occupe désormais du menu de nos enfants. L'entreprise Disney veut que les parents puissent acheter les yeux fermés des produits développés selon des critères nutritionnels définis par elle-même. Le logo Disney Cuisine peut désormais se retrouver sur des paquets de céréales, des fromages blancs, des sachets de pommes de terre ou encore des œufs frais. Le géant américain du cinéma s'est associé à plusieurs entreprises d'agroalimentaire. L'initiative agace certaines associations de consommateurs, d'autant qu'il existe en France un logo d'information nutritionnelle, le Nutri-Score. Alors Philippe Lefebvre, que peut-on penser de ce nouveau logo lancé par Disney?
La démarche n'a rien d'illégal. En effet, depuis 2017, l'indication de la qualité nutritionnelle des produits alimentaires via le label officiel Nutri-Score est facultative. En clair, les industriels de l'alimentation peuvent décider ou non de la poser sur les emballages de leurs produits. Aujourd'hui, une centaine de marques affichent le Nutri-Score, mais les poids lourds du secteur, comme Coca-Cola ou Nestlé par exemple, s'y refusent. Certains ont d'ailleurs créé leur propre système d'information du consommateur et leur propre grille de lecture et d'évaluation des produits. Et aujourd'hui, bien certains de ces industriels qui ont des contrats de licence pour utiliser sur leurs emballages l'image des personnages de Disney, comme Mickey, Ratatouille ou les Indestructibles, vont plus loin en proposant une indication nutritionnelle commune sous le logo Disney Cuisine, initié par la filiale française du géant américain du cinéma. Seulement voilà, moment-là, au pays de Rabelais, quand Mickey se mêle de nutrition, même avec les meilleures intentions du monde, cela ne passe pas et cela fait bondir certaines associations de consommateurs qui remarquent que la création de ce logo est annoncée fort opportunément quelques jours avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture.
France Inter, il est 8h05, au ministère de l'économie, on ne décolère pas, Laurence, Altifor a trompé son monde.
L'entreprise avait obtenu en justice la reprise de l'acierie Ascoval, or elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour son projet de Saint-Saulve dans le Nord. Colère et dépit des 281 salariés qui se sentent trahis, le plan de financement était de 152 millions d'euros avec 47 millions d'argent public sous forme de prêts. Le reste était attendu d'Altifor, mais surtout des banques. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, veut croire qu'une solution reste possible. Fabien Roussel, député du Nord et patron du Parti communiste, y croit encore lui aussi.
C'est pas mort, ça tombe pas, faut pas dire ça. L'entreprise coule de l'acier aujourd'hui même. Il y a des commandes, il y a des clients. Le repreneur Altifor fait face à une difficulté financière parce qu'il y a un système bancaire et assurantiel derrière qui n'est pas là pour accompagner les entreprises mais plutôt pour leur mettre des bâtons dans les roues. C'est ça le problème. On est face à un système bancaire qui n'accompagne pas le monde économique. Et donc, aujourd'hui, eh bien, cette entreprise n'est pas épaulée. Et donc, le tribunal de commerce tire la sonnette d'alarme. On en est là. Ça ne veut pas dire que c'est mort. Et on doit continuer dans les heures et les jours qui viennent à trouver le partenaire, la banque qui va accompagner le projet de reprise.
Et quelques heures après le coup de théâtre d'Ascoval, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, apprenait que Ford avait refusé l'offre du Belge Punch pour l'usine de Blanquefort. L'usine de Gironde et ses 850 salariés fabriquent des boîtes de Vitesse. À Villers-et-Cal en Normandie, c'est l'usine de fabrication du Nutella qui est à l'arrêt. L'usine qui fournit un tiers de Nutella, de pot de Nutella dans le monde, risque de pénurie sur l'un des produits préférés des Français. Ferrero a suspendu temporairement la fabrication de la pâte à tartiner de son usine de Seine-Maritime. Principe de précaution, dit le fabricant, un défaut de qualité a été décelé et dans le Nutella et les Kinder Bueno. Ferrero ne dit rien de plus, si ce n'est que les pots en vente actuellement ne sont pas concernés. La politique et la tension qui ne retombe pas entre le Sénat et l'Élysée. L'Élysée reste très remontée contre le rapport de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Et hier, le Premier ministre Édouard Philippe s'en est pris lui aussi à ses 120 pages qui entravent la séparation des pouvoirs. L'exécutif donne le sentiment de perdre les pédales, lui a rétorqué le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau. Ambiance entre ces deux fronts, un homme se risque à jouer les casques bleus, c'est Gérard Larcher. Comment et pourquoi? Explication de Karine Bécard.
Entre le Sénat et l'Élysée, Gérard Larcher est aujourd'hui l'élément clé et il le sait, puisque c'est lui qui transmettra ou pas le rapport du Sénat à la justice. Pour l'instant, Gérard Larcher explique qu'il va prendre son temps. Sa décision doit de toute façon commencer par être instruite par le secrétaire général du Sénat. Et puis après cela, il y aura encore le bureau qui devra être rassemblé pour voter à main levée. Bref, cette décision de transmettre ou pas à la justice ne sera pas prise avant le 21 mars, c'est-à-dire dans un mois précisément. Sauf que d'ici là, le parquet de Paris se sera peut-être auto-saisi du rapport du Sénat sur le sujet Benalla. En réalité, ce ne serait pas pour déplaire à Gérard Larcher, qui préférerait ne pas avoir à donner l'impression d'attaquer Emmanuel Macron dans une période qui reste bousculée et alors que le grand débat n'est pas encore terminé. Donc, patienter pour calmer les ardeurs de ces sénateurs et pour apaiser les tensions avec l'Élysée, un rôle clé qui pourrait, qui sait, le rapprocher de Matignon parce que Gérard Larcher, a priori, ne dirait pas non.
Karine Bécard. Il reste encore 3 semaines avant la fin du grand débat. Les contributions sur les cahiers de doléances mises à disposition dans 10 000 mairies sont maintenant terminées. Prochaine étape pour ces documents, la Bibliothèque nationale de France. Elle est chargée de les numériser et ce n'est pas une mince affaire, Delphine Evenou.
Le calme avant la tempête. Pour l'instant, ce sont les préfectures qui fonctionnent à plein régime pour préparer le travail de la Bibliothèque nationale. Miari Rabenarivo est la chef du service numérisation de la BNF.
La préfecture effectue la photocopie de toutes les pages écrites de ces cahiers pour pouvoir nous envoyer pour que nous puissions faire une numérisation. Donc la numérisation consiste à prendre en photo toutes ces pages écrites avec la page qui servira à identifier chaque cahier, donc la page qui va faire référence à la ville de provenance de chaque cahier.
Référencer numérisés, indexés, la BNF doit transformer en fichiers informatiques exploitables les cahiers de doléances, mais aussi les lettres envoyées à l'Élysée ou dans les ministères. Tout cela dans un lieu tenu secret. La tâche semble titanesque. Arnaud Beaufort, directeur des services et réseaux, ne panique pas.
Nous n'avons que quelques semaines. Ça se compte sur les doigts d'une main. Donc je ne vous cache pas que nous sommes tous mobilisés. Mais la volumétrie reste une volumétrie qui, pour la Bibliothèque nationale de France, est une volumétrie normale. Nous avons une habitude de numériser environ 17 millions de pages par an. Donc ce ne sont pas 300 ou 400 000 pages qui nous font peur.
Une fois numérisés, les documents seront transmis à un autre prestataire qui va les dactylographier pour permettre des recherches par mots à l'intérieur. Les cahiers de doléances d'origine sont, eux, voués à rejoindre leurs ancêtres de 1789 aux archives départementales.
Il est 8h10, Laurence Thomas, et la France attend la confirmation officielle de la mort de Fabien Klein.
Le frère du djihadiste français, Jean-Michel, aurait été grièvement blessé selon nos informations, mais pour l'heure, des vérifications sont en cours. Le Quai d'Orsay, tout comme les services de renseignement, n'ont pas souhaité de faire de commentaires. Seule une preuve ADN pourra officialiser la mort de Fabien Klein. Le djihadiste était dans le viseur des services antiterroristes depuis des années. Il aurait été tué hier par une frappe de drone américain à Baghouz, en Syrie. Baghouz, ultime bastion de Daesh. Correspondance à Washington de Grégory Phillips.
Le Pentagone ne donne aucune information sur ce tir de drone qui, mercredi après-midi, a visé les deux frères Klein. Mais on sait que 90% des frappes aériennes menées en Syrie le sont par les Américains et que seuls les États-Unis disposent dans la région de ces drones équipés de missiles. Ils partent généralement de la base aérienne d'Al-Assad, dans le centre de l'Irak. Les Américains assument totalement cette politique d'exécution ciblée et de tels drones ont été utilisés en Afghanistan, en Syrie, en Irak ou en Somalie. On ignore encore pour l'instant quels sont les renseignements qui ont permis de localiser et neutraliser les deux djihadistes français, mais cela démontre que les États-Unis poursuivent leurs frappes aériennes, et ce malgré le désengagement annoncé mi-décembre par Trump. Hier soir, la Maison-Blanche a simplement précisé que sur les 2000 soldats américains actuellement déployés en Syrie, environ 200 resteraient encore sur zone pour un certain temps. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Au Venezuela, jour J-1 avant la fin de l'ultimatum de Juan Guaido à Nicolas Maduro, l'opposant a assuré que demain, 23 février, l'aide humanitaire devait entrer quoi qu'il arrive. Le président a répondu en renforçant la présence militaire à la frontière colombienne et en fermant la frontière avec le Brésil. Mais depuis hier, des caravanes de volontaires sont en route pour aider à acheminer l'aide humanitaire. À Caracas, Benjamin Delisle.
Dès le départ, l'armée a tenté de ralentir la très médiatique caravane des députés de l'Assemblée nationale. Les militaires ont bloqué une avenue de la capitale pour empêcher le convoi de partir à l'heure, le but étant de les retarder un maximum pour les empêcher d'arriver le soir même à la frontière. La caravane a ensuite été arrêtée de nombreuses fois sur la route lors de contrôles militaires et l'un d'eux a failli mal tourner. En plein direct pour la chaîne VPI, un chauffeur interviewé s'interrompt lorsqu'il prend conscience que les militaires s'approchent de son camion. Le journaliste reprend l'antenne et décrit la scène.
Les fonctionnaires de la garde nationale sont armés de couteaux. Ils essaient de crever les pneus du camion.
D'autres tentent de confisquer les véhicules. Les esprits s'échauffent et les soldats chargent la députée en leur lançant des gaz lacrymogènes. La députée Mariana Magallanes s'emporte à l'antenne.
Je ne veux pas croire que notre garde nationale en soit réduite à faire ça. C'est une honte, vous l'aurez sur la conscience. Notre travail, nous le faisons aussi pour vous.
Finalement, les députés arrivent à forcer le barrage et à reprendre la route. Mais ce genre de blocage se répète plusieurs fois et les retarde considérablement. Pas sûr que le convoi arrive à la frontière à 10h ce vendredi pour le début du concert et la mobilisation pour faire entrer l'aide humanitaire. Caracas, Benjamin Delisle, France Inter.
Le premier robot low-cost fait route vers la Lune, c'est une première à plusieurs titres. La sonde n'est ni américaine, ni russe, ni chinoise, c'est une sonde israélienne financée par des donateurs privés. Arrivée prévue dans 7 semaines pour étudier le champ magnétique de la Lune. 44e cérémonie des Césars, une seule certitude ce soir, le César du public qui récompense désormais depuis 2 ans le film français qui a fait le plus d'entrées dans l'année devrait revenir au Tuche 3. Le film d'Olivier Barou a en effet rassemblé 5 687 000 spectateurs en 2018. Alors pour le reste, eh bien c'est la profession qui vote. À qui ira le César du meilleur film ? Les Frères Sisters de Jacques Audiard, Le Grand Bain de Gilles Lelouch, Jusqu'à la Garde, le premier film de Xavier Legrand, ou alors À une femme, pupille de Jeanne Henry. 7 prétendants en tout, une sélection ouverte avec 2 grands favoris. Corinne Pellissier.
Non, on arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir.
C'est la success story de l'année, une standing ovation à Cannes, un succès critique et populaire, et un scénario pas banal autour de cabossés de la vie. Paris qui se lance dans un concours de natation synchronisée. Le Grand Bain de Gilles Lelouch, 4 millions de spectateurs en salle, 10 nominations au compteur, grand favori de la soirée, mais pas tout seul. Il y a d'abord le règlement qui, depuis 2016, empêche de cumuler les prix du meilleur film et du meilleur réalisateur. Et puis il y a l'appétit des votants pour les sujets de société, plutôt variés cette année et susceptibles de fournir un palmarès équilibré entre comédies de tous bords et sujets forts, comme le thème de l'adoption ou les violences conjugales.
J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça ?
J'aimerais bien comprendre. Je sais pas ce qu'on leur met dans la tête.
Le premier film ici, de Xavier Legrand jusqu'à la garde, récompensé à Venise, est nommé lui aussi dans 10 catégories.
Pendant 8 ans, j'ai vécu avec un sale type, un sale mec, un minable.
Une année particulièrement faste pour le cinéma français et ses comédiens. Adèle Haenel, dans un registre tout nouveau pour elle, la comédie, en lice pour un deuxième César. Ou encore Vincent Lacoste, incontournable, avec 3 grands rôles cette année. Une interprétation tout en retenue dans le très beau film Amanda.
Tu penses qu'on va réussir à supporter ?
Tous les jours ?
Tous les jours.
On verra bien.
Les Césars ce soir, diffusés sur Canal+. Un mot de football, Rennes s'est imposé 3-1 sur le terrain du Betis Séville en 16e de finale. Retour de Ligue Europa pour la première fois de son histoire. Rennes se retrouve en 8e, aux côtés notamment de Chelsea, l'Inter Milan ou encore Arsenal. Et on retourne à Saint-Étienne retrouver Nicolas Demorand.
Merci Laurence Thomas.